Vous écoutez Arte Radio. Ce podcast évoque des scènes de violence. Attention aux oreilles sensibles.
Délit mineur. Chronique d'audience d'une assesseur au tribunal pour enfants de Bobigny, Seine-Saint-Denis.
Assesseur, ça veut dire qu'en plus de mon travail de prof de fac, je siège une fois par mois comme juge bénévole au tribunal pour enfants de Bobigny.
Un dossier bleu. Ce matin, il pleut à verse. On est en retard pour l'école. Je dépose les enfants en quatrième vitesse et je file au tribunal pour consulter les dossiers de ma prochaine audience. Je m'attends à devoir lire, comme d'habitude, une énorme pile de dossiers. En temps normal, on juge 6 ou 7 affaires par audience, parfois plus. Mais là, surprise, je n'ai qu'un seul dossier. Un gros dossier bleu. Les dossiers bleus, c'est les vieilles affaires. Celles qui sont encore régies par la fameuse ordonnance de 1945. Cette ordonnance n'est plus d'actualité. Elle a été remplacée par le Code de la justice pénale des mineurs en 2021. L'un des grands objectifs de cette réforme, c'était de répondre aux critiques sur la lenteur de la justice des mineurs. Du coup, depuis 2021, les nouvelles affaires, les dossiers orange, doivent être jugés dans un délai d'environ 12 mois. Le rythme est intense et les dossiers orange accaparent toutes les énergies. Le problème, c'est que cette réforme est entrée en vigueur alors que de nombreux dossiers bleus attendaient toujours d'être jugés, parfois depuis des années. Le ministère a essayé d'en écouler un max avant l'application de la réforme. Dans toutes les juridictions, de grandes opérations de déstockage ont été organisées. Mais la liquidation totale, c'était impossible au tribunal de Bobigny. Il y avait 2000 dossiers en souffrance, 500 sont restés sur le carreau. Depuis, le stock s'écoule au compte-gouttes, au gré des opportunités d'audience. En gros, imaginez une autoroute avec une circulation tellement dense de voitures oranges que les voitures bleues n'arrivent presque jamais à s'insérer, alors que leur file s'étend à perte de vue sur des kilomètres et des kilomètres. Pour lire mon dossier, je descends m'installer dans la petite salle de consultation du tribunal pour enfants. Pas de fenêtres, des étagères qui débordent de dossiers, une grande table, quelques chaises, mais aussi un petit frigo et un micro-ondes. Pour être tranquille, mieux vaut ne pas venir à l'heure du déjeuner. J'ouvre mon dossier et je me plonge dans la lecture des faits. C'était il y a presque 6 ans. Ce jour-là, vers 13h, un petit groupe de jeunes déboule dans une pharmacie d'un quartier d'Aubervilliers. Un des jeunes est blessé, il respire mal. Adama, 18 ans, vient de recevoir 8 coups de ciseaux dans le dos. Son poumon gauche est touché. Les pompiers l'évacuent vers l'hôpital. Il s'en sort par miracle. Aux policiers, les copains d'Adama racontent tous la même chose et désignent tous le même coupable. Kojo, 16 ans, un jeune du quartier. Tout a commencé le matin même au lycée. Dans les vestiaires, Alassane, le cousin d'Adama, a été menacé par Kojo. Kojo voulait son devoir de maths. Alassane a refusé, Kojo s'est énervé, il a sorti une paire de ciseaux de sa poche et a menacé Alassane de le planter. À midi, Alassane a appelé son cousin. Adama lui a dit de ne pas s'inquiéter, il allait régler le problème. Un peu avant 13h, Adama, le cousin, se met à la recherche de Kojo dans le quartier. Il est avec un copain et il a une bombe lacrymo. Adama ne met pas longtemps à retrouver Kojo. Le ton monte rapidement. Kojo saute sur Adama, Adama essaye de se défendre à coups de bombe lacrymo. Kojo, fou de rage, le jette par terre et lui plante 8 coups de ciseaux dans le dos. En garde à vue, Kojo reconnaît les faits, mais il minimise sa responsabilité. Il dit qu'il a agi sous le coup de l'adrénaline, qu'il a frappé au hasard, qu'il ne voyait rien à cause du gaz lacrymo. Les ciseaux, c'était pas à lui. Il les a trouvés par terre au moment de la bagarre. Il dit qu'il n'a jamais menacé Alassane. Les policiers ne sont pas convaincus, le parquet non plus. À la fin de sa garde à vue, Kojo est placé sous contrôle judiciaire. Il est poursuivi pour violence aggravée. le parquet n'a pas retenu la qualification d'homicide volontaire. Il a estimé que l'intention de tuer n'était pas clairement établie. Kojo vient d'échapper de peu à la cour d'assises des mineurs. Et ça, ça aurait été une autre paire de manches. L'histoire de Kojo, c'est la suite du dossier qu'il raconte, à travers les rapports des éducateurs. Il a grandi au Togo, dans un quartier défavorisé de Lomé. Il a été élevé par sa mère. Le jour de ses 12 ans, elle lui annonce qu'il va partir en France pour vivre avec son père. Kojo refuse. Il ne veut pas quitter sa mère. Son père, il le connaît à peine. Il l'a vu seulement 2 ou 3 fois dans sa vie. Kojo n'a pas le choix. Tout est déjà arrangé. Sa mère lui demande de saisir sa chance. Il doit devenir quelqu'un de bien. Un mois plus tard, Kojo débarque chez son père, à Aubervilliers, au cœur d'une vaste cité HLM. Son père vit avec une seconde épouse. Elle est enceinte, elle attend des jumeaux. Elle accueille Kojo comme son fils. Les débuts sont difficiles, mais Kojo s'accroche. Il s'investit à fond dans sa scolarité, c'est un très bon élève, tous ses profs l'apprécient. Il rêve de devenir ingénieur en aéronautique. Son père travaille comme agent de sécurité à l'aéroport de Roissy. Il est très impliqué dans l'éducation de son fils. Il suit sa scolarité de près, lui paye des cours particuliers. Il veut à tout prix que son fils réussisse. Kojo a interdiction de traîner dans le quartier. Le père ne veut pas vivre un nouveau drame. Il y a 6 ans, son fils aîné, issu d'une autre union, a été poignardé à mort à un arrêt de bus, victime d'un conflit entre bandes rivales. Un jour, alors qu'il a 14 ans, Kojo reçoit un coup de fil de sa mère. Elle lui annonce qu'elle est gravement malade. Ils parlent un peu ensemble et elle raccroche. 3 semaines plus tard, il apprend que sa mère est morte. Avec son père, ils font le voyage jusqu'à Lomé pour l'enterrement. Sur place, la famille raconte que la mère a été envoûtée, qu'elle s'est comme décomposée vivante. Les médecins n'ont rien pu faire, les guérisseurs non plus. Après la mort de sa mère, Kojo poursuit d'abord son parcours sans difficulté. Décroche son brevet, entre au lycée général. Mais, en classe de première, son comportement change brutalement. Ses notes chutent, il sèche les cours, il se met à fumer du cannabis et à traîner dans le quartier. Il se teint aussi les cheveux en rouge. Les relations avec son père deviennent explosives et Kojo se met à fuguer. Après l'agression au ciseau, Kojo a été placé dans un centre éducatif. C'est lui qui a demandé à être placé. 6 mois après son arrivée, les éducateurs sont optimistes. Pareil pour la psychologue. Elle écrit que Kojo a des bases affectives solides, qu'il est capable d'aller de l'avant. Le soir, chez moi, je repense à Kojo. Il avait 16 ans au moment des faits. Il en a presque 22 maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûre qu'il s'en est tiré. Peut-être qu'il a eu son bac, peut-être même qu'il est en école d'ingénieur. J'attends l'audience avec impatience. 3 jours plus tard, c'est le jour J. On va enfin juger Kojo. Ce matin-là, c'est la pagaille dans les transports en commun. J'arrive au tribunal avec 15 minutes de retard. J'entre dans la salle d'audience en m'excusant. La juge des enfants me rassure tout de suite. Elle me dit de ne pas m'inquiéter. De toute façon, Kojo n'est pas là. Il a refusé d'être extrait de sa cellule. Extrait de sa cellule ? Je tombe des nues. La juge me dit qu'il est en détention provisoire depuis 15 jours, dans une affaire de meurtre en bande organisée. L'annonce me fait l'effet d'une bombe. La juge m'explique qu'elle a l'info seulement depuis hier. Il y a eu un couac avec le parquet, le dossier n'était pas complet. Sur la grande table de la salle d'audience, je vois une copie du formulaire que Kojo a signé ce matin en prison. Dans la case « Motif du refus d'extraction », il a écrit d'une belle écriture ronde, presque enfantine. Je suis gravement malade. Les mêmes mots que sa mère. Exactement les mots que j'ai lus dans le dossier. L'audience démarre. Un débat s'ouvre. Faut-il juger Kojo en son absence ou faut-il renvoyer l'affaire pour qu'il soit jugé à une autre date? On se retire pour délibérer. A priori, je suis plutôt pour le report. Mais Kojo était au courant de la date d'audience. Il n'a pas désigné d'avocat. Aucun certificat médical ne justifie son absence. Il n'a fait aucune demande de renvoi. Et puis le dossier est trop ancien. Il risque de retomber dans les oubliettes du tribunal. La question est tranchée. On décide de le juger. Avant qu'on y retourne, je demande à la juge qu'on attende le père au moins. En début d'audience, la greffière a dit qu'il avait envoyé un mail pour dire qu'il viendrait. Il y a des problèmes dans les transports ce matin, peut-être qu'il va arriver. La juge refuse d'attendre. Elle dit que le père prendra l'audience en cours de route s'il arrive. Dans une salle vide, sans prévenu ni victime, sans avocat ni éducateur, la juge se lance dans l'examen des faits. J'écoute d'une oreille distraite. Je pense à tout ce temps perdu. Presque 6 ans, 67 mois, 291 semaines, 2040 jours pour être exact. Une éternité à l'échelle de la vie d'un ado. Si on avait jugé Kojo à temps, est-ce que les choses auraient pu être différentes ? Personne ne peut répondre à cette question. Mais ce que je sais, c'est qu'on ne devrait pas avoir à se la poser. L'audience avance. Je comprends que le père ne viendra pas. Lui aussi a été informé seulement hier que son fils est en prison. Il n'avait plus de nouvelles de lui depuis un moment. Pendant que la procureure fait ses réquisitions, je pense au père. Je l'imagine, tétanisé par cette terrible nouvelle. En délibéré, on suit les réquisitions de la procureure. On décide de condamner Kojo à une peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis. On ajoute aussi une obligation de soins et une interdiction de porter une arme pendant 5 ans. L'audience est levée, il est 11h, on n'a jamais fini aussitôt. La juge dit qu'elle a mal calibré l'audience. Elle a cru que le dossier nous prendrait toute la matinée. Elle s'en veut de ne pas avoir prévu plus d'affaires. Elle songe à tous les dossiers orange de son cabinet, mais aussi à tous les dossiers bleus, qui quelque part dans le tribunal pour enfants attendent d'être un jour enfin jugés. Thank you.